Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mes chers camarades, bien le bonjour. La bataille de Poitiers, c'est un événement dont on entend beaucoup parler, mais dont on ne sait finalement pas grand-chose. Quand a eu lieu cette bataille? Où s'est-elle déroulée exactement? Qui s'est affronté? Est-elle aussi importante qu'on pourrait le croire, ou au contraire, est-elle totalement anecdotique? Je vous propose d'en apprendre un petit peu plus sur son sujet dans cet extrait de l'entretien avec William Blanc et Christophe Naudin, qui sont les auteurs du livre Charles Martel et la bataille de Poitiers, de l'histoire au mythe identitaire. L'entretien complet arrive dans les prochains jours, alors en attendant, je vous souhaite une bonne écoute sur Nota Bene.
Ce que je vous propose en tout cas, c'est dans un premier temps de parler de la bataille en tant que telle et de ce qu'on sait dessus, et puis on verra ensuite comment ça a été interprété. Alors du coup, pour le quidam qui ne connaît pas la bataille de Poitiers, c'est quoi la bataille de Poitiers? C'est qui se bat?
A priori, la bataille aurait opposé donc les Francs de Charles Martel, a priori toujours alliés, parce que ça dépend des sources en fait, avec le duc d'Aquitaine. Du côté musulman, il y aurait eu les chefs, on va dire, arabes, l'émir Abderrahman, avec une armée sans doute essentiellement berbère, et donc des contingents peut-être visigoths, puisque une partie dans l'ancien royaume visigothique dépassait, on va dire, dans la France actuelle, c'est dans ce qu'on appelle la Septimanie à l'époque, qui était en gros le Languedoc actuel, je schématise, et qui avait été conquis donc au début du 8e siècle par les musulmans, les sarrasins. Et donc on pense qu'il y avait peut-être aussi dans l'armée sarrasine des contingents visigoths. Voilà. Et donc ils se seraient affrontés. Pour quelles raisons? Ça c'est pareil, il y a débat. Est-ce que c'est une invasion? Ça, il y a peu de chances. Il y a des théories qui pensent que c'était une invasion, mais de plus en plus les historiens mettent ça de côté parce qu'il n'y a aucune preuve tout simplement qu'il y avait une volonté d'invasion de la part des musulmans. Par contre, ça, il y avait un raid. Alors, est-ce que c'est un raid qui, plus tard, aurait amené une invasion? On n'en sait rien. C'était un raid, une razzia, comme il y en avait eu avant et comme il y en aura après. Ça, c'est important. Une razzia qui serait passée donc par Bordeaux, notamment, et surtout ensuite par Poitiers, avec la basilique Saint-Hilaire qui aurait été pillée. Et l'armée sarrasine aurait continué au nord et se serait heurtée donc à l'armée de Charles Martel, venu à sa rencontre, donc peut-être avec Eudes d'Aquitaine aussi, qui avait été mis en difficulté auparavant, et se serait rencontré, alors justement, c'est un des débats, aujourd'hui les historiens disent entre Poitiers et Tours. Il y a un site, un mémorial, petit mémorial à Bouillé, près de Châtellerault. C'est un site qui a été fait à partir d'un livre qu'on a utilisé, hein, qui était un peu le premier livre vraiment important, on va dire, sur la bataille de Poitiers. On a mis des références dans l'ouvrage, mais c'était un livre des années 60, fait par des historiens locaux, Roy et Devios, qui pendant longtemps a fait un petit peu référence et qui se basait sur des textes, sur les peu textes qu'on avait, qui parlaient d'une voix qu'ils ont interprétée comme étant une voix romaine. Et donc, ils ont repéré une voix romaine dans la région. Ils se sont dit, ben voilà, ça doit être là. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de traces archéologiques, comme à Alésia, par exemple, il n'y a rien. Et donc, aujourd'hui, les historiens se disent, ben voilà, c'était sans doute autre chose. Peut-être, ils parlaient d'un palais, peut-être ce serait plus au nord vers Tours. On pense quand même que c'était Tours qui était visé au bout du compte, que les Sarrasins voulaient aller jusqu'à Tours, parce qu'il y avait Saint-Martin de Tours qui était vraiment l'endroit très important pour les Mérovingiens, avec un grand trésor a priori. Donc voilà, personne ne peut dire aujourd'hui qu'on sait où s'est située la bataille. Il y a plein de légendes locales qui situent la bataille aussi à d'autres endroits, mais on n'a aucune source qui dit. On ne peut pas savoir en fait où s'est déroulée la bataille. Après, au niveau du nombre de combattants, ça c'est pareil. Comme je disais tout à l'heure, la source principale, la chronique mozarabe, donne pas le nombre de combattants. Et donc les historiens se basent sur les estimations de l'époque, des combats de l'époque, donc sans doute plusieurs milliers de chaque côté. On y reviendra peut-être aussi, mais c'est pas une escarmouche. C'est sans doute un affrontement assez majeur quand même pour l'époque. Donc plusieurs milliers de chaque côté. Et après, pour le déroulement lui-même, il y a plusieurs versions, mais la chronique mozarabe dit en gros que après quelques jours d'escarmouche où les armées seraient un petit peu cherchées, les Arabes auraient, enfin les Sarrasins auraient en gros chargé sur une espèce de mur de glace, donc l'infanterie franque. Donc là, à l'époque, c'est avant Charlemagne, donc il n'y a pas la grande cavalerie franque, c'est une infanterie. Et ils se seraient cassés les dents dessus, en fait, et après, ils auraient été dans la mêlée, ils auraient été dispersés, notamment suite à la mort d'Abdel Rahman. Et ça aurait mis l'armée en déroute. D'autres sources, notamment carolingiennes, disent que les carolingiens auraient continué après dans le camp, ils seraient arrivés dans le camp sarrasin et ils auraient trouvé le camp vide, voilà, et ils n'auraient pas poursuivi l'armée. Donc ça aussi, il y a débat, pourquoi ils n'ont pas poursuivi, qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient poursuivi l'armée, etc., etc. Donc voilà, au bout du compte, on sait pas grand-chose, on sait pas vraiment la composition des armées, le lieu et le nombre, voilà, et vraiment comment ça s'est passé en détail.
Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. À bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire. Je le lirai avec plaisir.